Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Rémi Rioux, qui est directeur de l'Agence française du développement. Donc c'est l'organisme qui s'occupe de toute l'aide publique au développement sur l'ensemble du monde et qui a publié tout récemment dans la collection Débat public un livre Réconciliation au pluriel. Vous commencez votre livre par une phrase disant, mettant en avant les limites du pouvoir national, mais en même temps évoquant le fait que les problèmes mondiaux ne produisent pas de politique mondiale car le monde est trop hétérogène pour être unifié.
Bonjour à tous. D'abord, merci pour votre invitation. Oui, moi, je suis ces questions maintenant depuis une vingtaine d'années, hein, alternant des fonctions internationales au sein de l'État français et puis des fonctions nationales aussi. Donc, je suis très attentif à l'évolution des débats et on voit bien que les fractures, le phénomène de fracturation qui est en train de marquer le monde politique, l'environnement, le monde financier que je connais bien, la sphère sociale, des fractures historiques aussi qui se ravivent, n'ont jamais été plus forts et que les instruments publics, les formes politiques nationales ont du mal à les prendre et à les réduire. Et donc j'ai cherché par ce livre à essayer de reposer cette question et de voir si ce qu'on appelle la politique de développement, avec peut-être des mots un peu anciens, des mots du passé, pouvait avoir à côté de la diplomatie, à côté de la défense, une utilité, un sens particulier et que je crois très pertinent compte tenu de la crise que nous vivons.
Vous employez l'expression d'un monde polypolaire, donc qui se distinguerait, qui serait différent de la dichotomie traditionnelle entre monde unipolaire et monde multipolaire.
Alors c'est pour polypolaire, c'est une façon de dire que le système multilatéral, qui est si précieux évidemment, qui tient le monde serré en fait, et qui est par l'effet de ses fracturations en crise lui aussi, et qui souffre probablement d'un déficit aujourd'hui de consensus politique au plus haut niveau, a besoin d'aller chercher des forces ailleurs, et plutôt du coup d'aller comme le niveau supérieur, je dirais, le niveau, alors le G7 a été un succès, mais on voit bien qu'au niveau politique le plus élevé, on a du mal aujourd'hui à orienter le système multilatéral dans un sens dynamique, à la recherche des solutions à ces fracturations. Donc ma thèse, c'est de dire, peut-être le système multilatéral doit aller chercher en dessous, doit aller chercher dans les États des forces qui vont venir le soutenir et montrer que l'agenda international, l'agenda 2030, l'accord de Paris, sont possibles, leur réalisation est possible si on va chercher un peu en dehors des institutions internationales elles-mêmes. Donc polylatéral, ça veut dire ni strictement multilatéral, ni strictement bilatéral, comme moi j'aime pas ce mot bilatéral, mais on dit que l'AFD c'est une agence bilatérale, moi je dis plutôt nationale, on est une agence française, donc on exprime la vision et l'ambition de notre propre pays. Il faut articuler très étroitement ce niveau international et ce niveau national, et c'est ce qu'on fait, je l'explique dans le livre, hein, et j'y passe beaucoup de temps, c'est ce qu'on fait dans ce club IDFC, International Development Finance Club, où on a rassemblé 25 banques de développement nationales et régionales. Donc ce n'est pas le niveau multilatéral, c'est le niveau d'en dessous. Et ces gens-là prennent des positions ensemble, financent des projets ensemble, mais évidemment sans être dans une concurrence avec le multilatéral. En fait, en appui au multilatéral. On s'aligne sur l'accord de Paris, on recueille et on cherche à trouver les voies de réalisation des objectifs de développement durable de 2015, ce grand agenda international, et on n'a plus que 10 ans pour le réaliser, et on le fait évidemment en démontrant par la capacité financière de ce club, 850 milliards de dollars, par la présence de ces institutions financières très profondément dans chacun des pays qui les a nourris, que ce soit la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Maroc, la France, l'Allemagne, le Japon, qu'on est capable de passer ce message de développement durable à l'ensemble des acteurs publics et privés.
Alors, il y a les objectifs de développement durable qui doivent être atteints pour 2030. Vous tirez quand même un signal d'alarme dans votre livre en disant que le montant annuel des investissements dans les infrastructures est inférieur aujourd'hui à ce qu'il devrait être pour atteindre ces objectifs.
Alors oui, il va y avoir l'Assemblée générale des Nations unies, là, très prochainement. Il y aura à cette occasion un rapport d'un groupe d'experts indépendants, un peu comme le GIEC ou l'IPBES sur la biodiversité et le climat. Là, on commence maintenant à avoir des rapports indépendants sur où on en est dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et les 169 cibles qui ont été définies par les Nations unies. Et le rapport, à dire vrai, est assez alarmant. En fait, il n'est pas encore public, mais il montre que sur très très peu des indicateurs, on est en progression. Et il montre même que sur les inégalités, sur les déchets, sur les émissions de CO2, sur la biodiversité, on recule. Donc il y a vraiment un signal d'alerte, d'alarme très important qui va être passé à New York à cette occasion. Et donc, effectivement, il faut qu'on trouve dans le monde financier, public et privé, les montants qui vont permettre de financer ce volume d'investissement nettement supérieur. Ces investissements, ils existent déjà, en fait. La bonne nouvelle, c'est cela. Il y a chaque année dans le monde 20 trillions d'investissements. Donc la question est moins une question de plus d'argent que où va cet argent et comment on arrive collectivement à faire passer d'investissements pour du charbon, par exemple, ou des énergies fossiles vers des investissements vers des énergies renouvelables. Des investissements qui détruisent la forêt amazonienne à des modes de production, l'élevage, le soja, qui respectent, sont pro-nature et respectent la forêt. Et donc il faut dans ce chemin, dans cette réorientation des flux financiers, c'est là aussi que les institutions publiques que sont ces banques de développement dont je vous parlais à l'instant sont particulièrement importantes. Il y a sans doute... Il n'y a pas de chiffres, hein, mais il y a sans doute entre 1 et 2 trillions de financements publics chaque année dans le monde. Et ces institutions financières, elles font sans doute plus d'un trillion. Et donc la question, c'est comment on utilise cet argent public, qui n'est pas de l'argent commercial, comme le font les banques privées, comment on l'utilise pour orienter les acteurs et réussir cette réorientation, cette transformation des comportements. Et on a quelque chose au plan international, et très étrangement la crise de 2008, si profonde et qui a marqué un retour des États dans l'économie massif, que ce soit les interventions des banques centrales, les plans de relance, les sanctions aussi, les États remettent leurs doigts dans la vie économique. Ce rôle des banques publiques, il y en a 550 dans le monde, hein. C'est énorme, hein. Mm-hmm. Un trillion. Il n'est pas encore très clair. À quoi ça sert entre les gouvernements et le marché, entre le global et le local? Ce sont ces instruments uniques, la Caisse des dépôts en France, vous voyez, qui font le lien entre les marchés et les mandats publics.
Donc pour vous, on ne peut plus opposer, comme on l'a fait trop longtemps, développement et protection de l'environnement. C'est quelque chose qui doit être lié. Et d'ailleurs, vous avez participé activement à la conférence de Paris sur la préservation du climat. Vous parliez d'un succès, d'un rare succès. Vous avez cette formule d'un multilatéralisme participatif qui pourrait être un peu un modèle pour trouver des points de concordance entre les multiples acteurs de la vie internationale.
L'accord de Paris, c'est un... On parle souvent des routes de la soie, et on dit souvent d'ailleurs qu'on n'a pas de récit parallèle. L'accord de Paris, c'est un grand récit international. Et malgré des vents contraires, il continue à produire des effets. Et ça a été dans l'enceinte de négociations la plus difficile, où chaque pays... a un droit de veto, c'est l'enceinte des Nations Unies. Effectivement, moi je l'ai vécu de l'intérieur auprès de Laurent Fabius. On a réussi une réconciliation, en fait. Ce qu'on avait échoué à faire à Copenhague, on l'a réussi à Paris, avec beaucoup une force qui continue à déployer ses effets. Et vous avez raison, nous on le sait à l'AFD depuis très longtemps, ce que le climat libère, c'est les ODD, c'est le lien social. En fait, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, d'ailleurs. quand on prend une mesure pour le climat, elle a des conséquences sur les inégalités. Elle a des conséquences, il faut que quelqu'un paye. Et donc immédiatement se pose la question de l'intégration sociale, se pose la question du lien social, c'est le mot qu'on emploie ici dans nos opérations. Donc on est dans ce moment, vous avez raison, on est passé du monde du développement dont la priorité était la lutte contre la pauvreté, donc les pays les plus pauvres. Nous, très tôt, on a dit l'environnement, la lutte contre le changement climatique, c'est aussi important que la lutte contre la pauvreté. Et on est maintenant dans cette phase où tout ça se consolide dans les objectifs de développement durable. Cette réconciliation, finalement, on ne choisit plus un secteur plutôt qu'un autre, mais on cherche à atteindre un monde en commun, un monde meilleur, dans ces différentes dimensions, avec des liens très étroits, ça aussi on est en train de le comprendre, des liens entre le climat et la santé, des liens entre le climat et les crises politiques, c'est la terreur des militaires brésiliens, probablement. L'Amazonie, c'est aussi un sujet de sécurité, pas seulement un sujet de biodiversité ou d'environnement, et l'Amazonie, c'est aussi un sujet d'économie, parce qu'il y a 20 millions de personnes qui doivent faire vivre leur famille, donc il faut trouver les bons compromis, les bonnes réconciliations.
Donc, pour répondre aux fractures, aux différentes fractures, vous élaborez une théorie de la réconciliation que vous illustrez par de multiples exemples très divers, d'ailleurs au Canada, Afrique du Sud. En quelques mots, comment conceptualisez-vous cette réconciliation comme méthode d'action sur des objectifs finalement très variés ?
Alors, vous l'avez dit, moi je dirige l'Agence française de développement. Donc, je réfléchis un peu sur... Qu'est-ce que c'est que le développement dans un moment où longtemps on n'a plus parlé de la politique de développement. Et donc si on n'en a plus parlé, c'est probablement que ces acteurs, et y compris l'agence que je dirige, on n'a pas su trouver les mots pour convaincre. Et on est resté sur une conception du développement, le mot même de développement d'ailleurs, par bien des aspects, qui charrie des choses un peu anciennes, enfin avec lesquelles nos concitoyens et puis nos partenaires parfois sont mal à l'aise. Le président de la République lui-même, hein, dans son discours de Ouagadougou, il dit, il n'est pas à l'aise avec ça, il dit qu'il faudrait trouver des nouveaux mots. Donc moi j'ai pris ça au pied de la lettre, j'allais dire, et donc je propose dans ce livre effectivement autre chose. Et le mot que j'ai trouvé, c'est le mot de réconciliation, un mot qui est assez disponible en fait. Bon, il a des origines, on le trouve un peu dans toutes les civilisations, ce mot-là. Et surtout, ce qui m'a frappé, et il y a deux chapitres dans le livre, évidemment, qui forment un peu un diptyque, j'ai essayé de dégager les critères d'un processus de réconciliation, l'Afrique du Sud, qui a réussi. Et donc, j'en ai trouvé quatre. Donc, une réconciliation qui réussit, c'est d'abord, bien sûr, le respect de l'autre, dans sa différence, dans sa violence, parfois, et la compréhension de son propre rôle dans la crise. Donc il y a ce face-à-face. Ensuite, une réconciliation, il faut une connaissance partagée des faits. Donc il faut de la recherche, il faut de l'étude, il faut qu'on partir d'une base de compréhension du problème qui est sérieuse, qui est en profondeur. Il faut un changement dans la réalité, évidemment. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que de deux états, on en crée un troisième, dans lequel tout le monde accepte d'entrer. Et puis, dans tous les processus de réconciliation, ça m'a beaucoup marqué, il y a toujours des étapes, il faut des résultats. On se dit, voilà, on s'est mis d'accord sur ce projet collectif, et on va s'en parler dans un an, dans deux ans, dans trois ans, en Yougoslavie, on va voir si on a franchi les étapes. Et évidemment, quand j'ai compris ça, je l'ai compris à la COP, c'est un peu ça la COP aussi, vous savez, tous les cinq ans, on doit faire le bilan d'où on en est sur la lutte contre le changement climatique. Ça m'a frappé de dire, mais c'est exactement ce qu'on fait dans un projet de développement, en fait. Un projet de développement réussi, comme ceux que l'AFD finance dans tant de pays, depuis si longtemps, il y a les quatre mêmes ingrédients. C'est-à-dire, évidemment qu'on on répond à une demande locale. Donc on respecte, on essaie de comprendre les contraintes, les dynamiques, du territoire et des populations auprès desquelles on déploie ce projet. On fait beaucoup d'études à l'AFD. Parfois, on nous le reproche parce que ça prend beaucoup de temps. Mais
pas nous.
Mais c'est moi, parfois. Mais c'est une étape très, très essentielle de prendre le temps avant d'engager des financements, avant de construire des choses, bah de vérifier que au plan social, au plan environnemental, on ne va pas faire du mal, en fait. On ne va pas arriver à... On va à minima ne pas faire de mal et on va avoir un effet positif. Bien sûr, on change quelque chose dans la réalité, sinon c'est pas la peine de financer quelque chose. Et puis on est très sérieux sur l'évaluation, les résultats ex post. Donc du coup, je me suis dit, mais finalement, est-ce que dans les 3D, vous savez, on parle souvent, le président lui-même, des 3D, est-ce que finalement... ce dont le développement est le nom, c'est pas la réconciliation. Donc ce que propose le livre, c'est de dire, dans une coopération internationale, dans une relation internationale, vous avez trois instruments. Vous avez la défense. Donc la défense, c'est un instrument de séparation des belligérants. Donc c'est ce qui permet, violence légitime, de rétablir un certain ordre. Vous avez la diplomatie. La diplomatie, c'est un instrument de pacification. C'est-à-dire, c'est les efforts pour définir un cadre dans lequel l'ensemble des acteurs va pouvoir à nouveau vivre ensemble. Et l'instrument qui ensuite va créer des liens concrets entre ces acteurs et va, alors que les autres ont un terme, mais qui va les inscrire dans la durée, ben peut-être que c'est le développement. Peut-être que c'est ça que nous faisons.
L'Europe, c'est à la fois un exemple réussi de réconciliation et en même temps le cœur majeur de la politique de développement, de l'aide publique au développement, dont elle est la pièce essentielle dans ce paysage mondial.
Il y a aussi un peu de la même façon, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, il y a un peu un paradoxe, c'est-à-dire le cœur, l'origine de la construction européenne, c'est le développement en fait. Souvenez-vous, dans le salon de l'horloge, quand on crée la communauté du charbon et de l'acier, on dit qu'on le fait pour l'Afrique. C'est dans le discours. Hein, avant l'euro, avant le marché unique, avant Schengen, avant toutes ces constructions européennes, il y a la relation avec les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, dès le traité de Rome. Donc c'est une des premières politiques communes. Plus de la moitié de l'aide publique au développement mondial vient d'Europe. On est la zone la plus généreuse. Les plus belles innovations en matière d'utilisation de cette aide publique au développement pour mobiliser le secteur privé, pour le climat, c'est en Europe que ça se passe. Il y a un réseau d'institutions de développement dans quasiment tous les pays d'Europe qui travaillent ensemble. Et donc, on est très très proche, et j'espère que les nouvelles autorités européennes qui se mettent en place, et le climat, la relation à l'Afrique, les migrations étaient au cœur du débat des élections européennes du printemps dernier, j'espère qu'on va franchir le cap de reconnaissance, d'organisation aussi de notre système, d'efficacité, qui redonne à la politique de développement un rôle majeur dans le projet européen. Et je pense que c'est très important parce que c'est en se réconciliant avec le reste du monde, et d'abord avec l'Afrique, qu'on va se réconcilier nous-mêmes. Parce qu'on est un peu fâchés sur tous ces sujets aussi entre Européens. Et donc, c'est par le détour de l'Afrique, peut-être, que l'Afrique qui est si attentive à la construction des intégrations régionales, et qui a longtemps regardé l'Europe comme une construction sœur, et qui a un peu détourné son regard pour le tourner vers la Chine, vers d'autres modèles, j'espère bien que cette attention africaine, ce dialogue avec l'Afrique, va nous aider aussi à améliorer, renforcer, aller plus loin dans notre propre processus d'intégration.
Vous venez de parler de la Chine, notamment en Afrique. Vous êtes le principal opérateur donc de développement français, d'ailleurs européen. Comment voyez-vous le projet des routes de la soie, l'activisme de la Chine en Afrique? Est-ce que cela vous paraît être un levier sur lequel, en tant qu'opérateur, vous pouvez vous appuyer, ou un concurrent qui essaye de se faire une chasse gardée?
Bon, nous, dans ces 3D-là, nous, on est forcément l'instrument qui cherche à coopérer. Dans la relation avec d'autres pays, on peut avoir d'autres intérêts, d'autres outils, d'autres... Ça, c'est une décision de nature politique. Mais nous, notre mission, c'est d'essayer de faire des choses bien avec les Chinois. Et pas qu'avec les Chinois, hein, avec tous les autres. Évidemment, le faire avec un certain nombre d'exigences minimales auxquelles nous veillons avec soin. Donc moi, je vais très souvent en Chine, en fait. J'y vais, j'essaie d'y aller aussi souvent qu'aux États-Unis d'Amérique. et à dire vrai, ça m'intéresse plus, en fait, en ce moment. Parce que je pense que les Chinois, depuis longtemps, ont compris, ont tiré parti et ont théorisé la mondialisation bien mieux que nous ne l'avons fait nous-mêmes. Mmh. Et en particulier ce monde des ODD, ce monde où il faut concilier le développement et l'environnement, ce monde où on échange des expériences de développement entre pays, ben ça, ils le disent depuis très longtemps, les Chinois. Win, gagnant-gagnant, civilisation écologique, destin commun, nous on dit un monde en commun, destin commun de l'humanité, ce sont des mots, hein, et parfois la pratique peut être différente, mais le discours chinois depuis longtemps est très développement durable et très proche de ce que la communauté internationale a dit en 2015. Et par ailleurs, nos collègues chinois, donc on essaye de faire des projets avec eux, hein, en cofinancement dans un certain nombre de pays, ben, ils ont cette capacité à aller chercher les innovations dans d'autres pays et à les siniser, à les ramener chez eux. Ils font ça depuis très longtemps. Alors on dit qu'ils copient, mais c'est autre chose. Dès lors qu'on a compris que le monde est en transition et qu'on a tous un chemin, parfois très difficile, très long, peut-être encore plus long et plus difficile dans les pays dits développés, à accomplir pour arriver dans un monde durable.
Vous parlez de la nécessité de recréer un imaginaire collectif. Et pour vous, il passe autour de trois remèdes. La culture, bon, il y a un accord général, la langue et, de façon peut-être plus originale par rapport aux autres organismes, le sport. L'Agence française pour le développement a une action très importante dans ce domaine, utiliser le sport comme un levier pour le développement.
Alors, oui, dans la recherche d'un nouveau récit, d'une nouvelle légitimité, d'une utilité de l'instrument de développement, ben, on a besoin d'alliés, on a besoin de gens, et singulièrement évidemment quand la moitié de notre activité, une grande attention est accordée au continent africain, si jeune, où la moitié de la jeunesse du monde vivra bientôt. Et bon, nous on est une institution financière, on est des gens un peu austères par certains aspects, donc il y a évidemment une connexion à faire que personne n'a jamais faite entre le monde du sport et le monde du financement du développement. Le monde du sport a des moyens importants, c'est un secteur économique considérable, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Pascal Boniface. Et en même temps, il y a beaucoup de sportifs aussi qui sont très engagés dans des activités associatives, qui veulent rendre, compte tenu du parcours souvent très courageux, remarquable qu'ils ont accompli, de la richesse qu'ils ont créée, qui veulent rendre à leur communauté, à leur pays d'origine, ce qu'elle leur a permis d'accomplir. Mais tout ça, c'est des choses souvent un peu fragiles ou qu'on a du mal à faire passer à l'échelle. Et donc moi, ça m'intéresse que le sport parle de développement et je pense que j'intéresse le monde du sport par ma capacité financière, notre attention aux pays les plus pauvres, pour montrer aussi que le sport, les Jeux Olympiques de 2024, j'espère, c'est pas que courir vite et bien lancer un ballon. C'est très important, mais c'est aussi laisser une trace et accompagner de l'éducation, de la santé, du développement urbain, la sortie de crise. Le Liberia, la Côte d'Ivoire, si le sport n'avait pas été là, on n'en serait pas là. Donc on développe beaucoup de partenariats avec la NBA, avec la FIFA, avec bien sûr le COJO, les Jeux Olympiques. Je vais à Dakar rencontrer le président Macky Sall avec la ministre des Sports et Tony Estanguet pour essayer de construire quelque chose entre les Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal en 2022 et les Jeux Olympiques organisés par la France en 2024, pour voilà, essayer de construire, de passer ce message que le sport et les ODD, le sport et le développement, c'est vraiment un jeu à somme très 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 positif.
Merci Rémy Rioux, je renvoie à la lecture de votre livre « Réconciliation » au pluriel, dans la collection Débat Public, et pour tous ceux qui s'intéressent entre autres aux questions de développement, je pense que c'est une lecture tout à fait indispensable.